Lucien Leven, chapitre 36. Quoi ? Se dit Dupoirier en apprenant le choix des deux commissaires qu'on lui avait donnés. Ces animaux-là ne seront pas même nommés deux commissaires ? Du diable si je leur raconte mon projet ! À la réunion du lendemain, Dupoirier, plus grave et plus rogue que de coutume, prit par le bras messieurs Ludwig Roller et 200 réals et les conduisit dans le cabinet du dernier, qu'il ferma à clé. Dupoirier fut avant tout fidèle aux formes, il savait que c'était la seule chose que Cent Réal comprenait dans cette affaire. Une fois placé dans trois fauteuils, Dupoirier dit après un petit silence « Messieurs, nous sommes ici réunis pour le service de Sa Majesté Charles X, notre roi légitime. Vous me jurez un secret absolu. » Même sur le peu qu'il m'est permis de vous révéler aujourd'hui. Parole d'honneur, dit Cent Réal, ahuri de respect et de curiosité. Dit Roller, impatienté. Messieurs, vos domestiques sont payés par les républicains. Cette secte se glisse partout, et, sans un secret absolu, même envers nos meilleurs amis, le bon parti ne pourrait parvenir à rien. Et vous, messieurs, ainsi que moi, pauvre plébéien, nous nous verrions vilipendés dans l'aurore. En faveur du lecteur, j'abrège infiniment le discours que Dupoirier se vit dans la nécessité de débiter à cet homme riche et à cet homme brave. Comme il ne voulait leur rien dire, il allongea encore plus qu'il n'était nécessaire. « Le secret que j'espérais pouvoir vous soumettre, dit-il enfin, n'est plus à moi. Pour le moment, je ne suis chargé que de demander à votre bravoure, dit-il en s'adressant surtout à Cent Réal, une trêve qui lui coûtera beaucoup. « Certes, dit Cent Réal, mais messieurs, quand on est membre d'un grand parti, il faut savoir faire des sacrifices à la volonté générale. Eût-elle tort ? Autrement, on n'est rien, on ne parvient à rien, on ne mérite que le nom d'enfant perdu. Il faut, messieurs, que personne d'entre vous ne provoque Monsieur Leven avant 15 grands jours. Il faut, répéta Ludwig Roller avec amertume. Vers cette époque, Monsieur Leven quittera Nancy, ou du moins il n'ira plus chez Madame de Chastelet. C'est, ce me semble, ce que vous désirez, et ce que je vous ai montré que vous n'obtiendrez pas par un duel. » Il faut répéter cela en termes différents pendant une heure. Les deux commissaires prétendaient que leur droit, comme leur devoir, était de savoir un secret. « Quel rôle jouerons-nous ? » disait Cent Réal. « Si ces messieurs qui nous attendent dans mon salon apprennent que nous sommes restés ici une heure entière pour ne rien apprendre. » « Eh bien, laissez croire que vous savez, » dit froidement Dupoirier. « Je vous seconderai. » Il fallut encore une bonne heure pour faire accepter ce mezzo termine à la vanité de ces messieurs. Le docteur Dupoirier se tira bien de cette épreuve de patience, au milieu de laquelle son orgueil jouissait. Il aimait surtout à parler et à avoir à convaincre des personnages ennemis. C'était un homme d'un extérieur repoussant, mais d'un esprit ferme, vif, entreprenant. Depuis qu'il se mêlait d'intrigues politiques, l'art de guérir, où il avait obtenu l'une des premières places, l'ennuyait. Le service de Charles X, ou ce qu'il appelait la politique, donnait un aliment à son envie de faire, de travailler, d'être compté. Ses flatteurs lui disaient « Si des bataillons prussiens ou russes nous ramènent Charles X, vous serez député, ministre, etc. Vous serez le Villèle de cette nouvelle position. » « Alors, comme alors, » répondait Dupoirier. En attendant, il avait tous les plaisirs de l'ambition conquérante. Voici comment. Messieurs de Puylaurent et de Pontlevé avait reçu des pouvoirs, de qui de droit, pour diriger les efforts des royalistes dans la province dont Nancy était le chef-lieu. Dupoirier ne devait être que l'humble secrétaire de cette commission, ou plutôt de ce pouvoir occulte, lequel n'avait qu'une chose de raisonnable, il ne se divisait pas. Il était confié à M. de Puylaurens, en son absence, à M. de Pontlevé, en l'absence de ce dernier, à M. Dupoirier. Et cependant, depuis un an, Dupoirier faisait tout. Il rendait des comptes fort légers aux deux titulaires de l'emploi, et ceux-ci ne se fâchaient pas trop. C'est qu'il avait l'art de leur faire entrevoir la guillotine, ou tout au moins le château de Ham, au bout de leur menée. Et ces messieurs, qui n'avaient ni zèle, ni fantaisie, ni dévouement, étaient bien aises, au fond, de laisser se compromettre ce bourgeois hardi et grossier, sauf à se brouiller avec lui et à tâcher de le jeter au bas de l'échelle, s'il y avait succès quelconque ou troisième restauration. Dupoirier n'avait nulle haine contre Leven, mais dans son ardeur de faire, puisqu'il s'était chargé de le faire déguerpir, il voulait et voulait fermement en venir à bout. Le premier jour, lorsqu'il demanda deux commissaires à la réunion sans réal, le second, lorsqu'il se débarrassa de la curiosité inquiète de ces deux commissaires, il n'avait encore aucun plan bien arrêté. Celui qu'il suivit ne se présenta à lui que par parties successives, et à mesure qu'il se persuada que laisser avoir lieu ce duel qu'il avait défendu au nom du roi serait une défaite marquée, un fiasco pour sa réputation et son influence en Lorraine dans la moitié jeune du parti. Il commença par confier, sous le sceau du secret, à mesdames de Serpierre, de Marcilly et de Puylaurens, que madame de Chastelet était plus malade qu'on ne le pensait, et que sa maladie serait longue tout au moins. Il engagea madame de Chastelet à souffrir un vésicatoire à la jambe et l'empêcha ainsi de marcher pendant un mois. Peu de jours après, il arriva chez elle, d'un air sérieux, qui devint sombre en lui tâtant le pouls, et il l'engagea à toutes les cérémonies religieuses qui, en province, sont comprises dans ce seul mot « se faire administrer ». Tout Nancy retentit de ce grand événement, et l'on peut juger de l'impression qu'il fit sur Leven. Madame Chastelet était donc en danger de mort. Mourir n'est donc que cela, se disait madame de Chastelet, qui était loin de se douter qu'elle n'avait qu'une fièvre ordinaire. La mort ne serait rien absolument si j'avais monsieur Leven là, auprès de moi. Il me donnerait du courage si je venais à en manquer. Au fait, sans lui la vie aurait eu peu de charme pour moi. On me fait bouder au fond de cette province, où, avant lui, ma vie était si triste. Mais il n'est pas noble, mais il est soldat du juste milieu, ou, ce qui est encore pis, de la République. Madame de Chastelet parvint à désirer la mort. Elle était sur le point de haïr madame d'Aucuncourt, et quand elle surprenait ce commencement de haine dans son cœur, elle se méprisait. Comme depuis 15 grands jours elle ne voyait plus Leven, le sentiment qu'elle avait pour lui ne lui donnait que du malheur. Leven, dans son désespoir, était allé mettre à la poste à Darnay 3 lettres, heureusement fort prudentes, lesquelles avaient été interceptées par mademoiselle Bérard, maintenant parfaitement d'accord avec le docteur Dupoirier. Leven ne quittait plus le docteur. Ce fut une fausse démarche. Leven était loin d'être assez savant en hypocrisie pour pouvoir se permettre la société intime d'un intrigant sans moralité. Sans s'en douter, il l'offensa mortellement. Le docteur, piqué de la naïveté du mépris de Leven pour les fripons, les renégats, les hypocrites, parvint à le haïr. Étonné de la chaleur de son bon sens, lorsqu'il était question entre eux du peu d'apparence du retour des Bourbons, « Mais à ce compte, moi !» lui dit un jour le docteur poussé à bout. « Je ne suis donc qu'un imbécile ?» Il continua tout bas. « Nous allons voir, jeune insensé, ce qu'il va advenir de ton plus cher intérêt. Raisonne sur l'avenir. Répète des idées que tu trouves toutes faites dans ton carrel. Moi, je suis maître de ton présent et vais te le faire sentir. Moi, vieux, ridé, mal mis, homme de mauvaise manière à tes yeux. Je vais t'infliger la douleur la plus cruelle à toi, beau, jeune, riche, doué par la nature de manière si noble et en tout si différent de moi, du Poirier. J'ai usé les 30 premières années de ma vie mourant de froid dans un 5e étage, en tête à tête avec un squelette. Toi, tu t'es donné la peine de naître, et tu prétends en secret que quand ton gouvernement raisonnable sera établi, on ne punira que par le mépris les hommes forts tels que moi. Cela serait bête à ton parti. En attendant, c'est bête à toi de ne pas deviner que je vais te faire du mal, et beaucoup. Souffre, jeune bambin. » Et le docteur se mit à parler à Leven de la maladie de Madame de Chastelet dans les termes les plus inquiétants. S'il voyait le sourire effleurer les lèvres de Leven, il lui disait « Tenez, c'est dans cette église qu'est le caveau de famille des Pontlevés. Je crains bien, » ajoutait-il avec un soupir, « que bientôt il ne soit rouvert. » Il attendait depuis plusieurs jours que Leven, fou comme le sont des amants, entreprit de voir en secret Madame de Chastelet. Depuis la conférence avec les jeunes gens du parti chez M. de Sanréal, du Poirier, qui méprisait assez la méchanceté plate et sans but de Mademoiselle Bérard, s'était rapproché d'elle. Il chercha à lui faire jouer un rôle dans la famille. C'était à elle de préférence, et non pas à M. de Pontlevé, à M. de Blancé ou aux autres parents, qu'il s'ouvrait sur le prétendu danger de Madame de Chastelet. Il y avait une grande difficulté au projet qui peu à peu se débrouillait dans la tête de M. du Poirier. C'était la présence continuelle de Mademoiselle Beaulieu, femme de chambre de Madame de Chastelet et qui adorait sa maîtresse. Le docteur la gagna en lui témoignant toute confiance et fit consentir Mademoiselle Bérard à ce que souvent, en sa présence, il s'entretint de préférence avec Mademoiselle Beaulieu sur les soins nécessaires à la malade jusqu'à la prochaine visite de lui, docteur. Cette bonne femme de chambre, comme la très peu bonne Mademoiselle Bérard, croyait également Madame de Chastelet fort dangereusement malade. Le docteur confia à la femme de chambre qu'il supposait qu'un chagrin de cœur alimentait la maladie de sa maîtresse. Il insinua qu'il trouverait naturel que M. Leven cherchât à voir encore une fois Madame de Chastelet. « Hélas, monsieur le docteur, il y a 15 jours que M. Leven me tourmente pour le laisser venir ici pour 5 minutes. Mais que dirait le monde? J'ai refusé absolument. » Le docteur répondit par une quantité de phrases arrangées de façon à ce que l'intelligence de la femme de chambre fût hors d'état de jamais les répéter. Mais dans le fait, ces phrases engageaient indirectement cette bonne fille à permettre l'entrevue demandée. Enfin, il arriva qu'un soir, M. de Pontlevé, d'après l'ordre du docteur, alla faire sa partie de whist chez Madame de Marcilly. Partie interrompue par 2 ou 3 accès de larmes. Justement, monsieur le vicomte de Blancé n'avait pu résister à une partie de chasse pour le passage des bécasses. Leven vit à la fenêtre de Mademoiselle Beaulieu le signal dont l'espérance donnait encore à la vie quelque intérêt pour lui. Leven vola chez lui, revint habillé en bourgeois et, enfin, annoncé avec des précautions infinies par la bonne femme de chambre, qui ne quitta pas le voisinage du lit, il put passer 10 minutes avec Madame de Chastelet. « Je ne m'y suis pas présentée depuis que vous êtes malade. » Chapitre 37. Le lendemain, le docteur trouva Madame de Chastelet sans fièvre et tellement bien qu'il eut peur d'avoir perdu tous les soins qu'il se donnait depuis 3 semaines. Il affecta l'air très inquiet devant la bonne Mademoiselle Beaulieu. Il partit comme un homme pressé et revint 1 heure après, à 1 heure insolite. « Beaulieu, lui dit-il, votre maîtresse tombe dans le marasme. »« Oh, mon Dieu, monsieur !» Ici, le docteur expliqua longuement ce qu'est le marasme. « Votre maîtresse a besoin de lait de femme. Si quelque chose peut lui sauver la vie, c'est l'usage du lait d'une jeune femme et fraîche paysanne. Je viens de faire courir dans tout Nancy. Je ne trouve que des femmes d'ouvriers, dont le lait ferait plus de mal que de bien à Madame de Chastelet. Il faut une jeune paysanne. » Le docteur remarqua que Beaulieu regardait attentivement la pendule. « Mon village, chefement, n'est qu'à 5 lieues d'ici. J'arriverai de nuit, mais n'importe. »
« Bien, très bien, brave et excellente Beaulieu. Mais si vous trouvez une jeune nourrice, ne lui faites pas faire les 5 lieues tout d'une traite. N'arrivez qu'après-demain matin. Le lait échauffé serait un poison pour votre maîtresse. »
« Croyez-vous, monsieur le docteur, que voir encore une fois monsieur Leven puisse faire du mal à madame ? Elle vient en quelque sorte de m'ordonner de le faire entrer ce soir s'il se présente. Elle lui est si attachée. »
Le docteur croyait à peine au bonheur qui lui arrivait.
« Rien de plus naturel, Beaulieu !»
Il insistait toujours sur le mot « naturel ».«
Qui est-ce qui vous remplacera ?»
Anne-Marie, cette brave fille si dévote.
Eh bien, donnez vos instructions à Anne-Marie. Où monsieur Leven se place-t-il en attendant le moment où vous pouvez l'annoncer?
Dans la soupente où couchait Joseph autrefois, dans l'antichambre de madame.
Dans l'état où est votre pauvre maîtresse, elle n'a pas besoin de trop d'émotions à la fois. Si vous m'en croyez, vous ferez défendre la porte pour tout le monde absolument. Même pour monsieur de Blancé. »
Ce détail et beaucoup d'autres furent convenus entre le docteur et mademoiselle Beaulieu. Cette bonne fille quitta Nancy à 5 heures, laissant ses fonctions à Anne-Marie. Or, depuis longtemps, Anne-Marie, que madame de Chastelet ne gardait que par bonté et qu'elle avait été sur le point de renvoyer une ou deux fois, était entièrement dévouée à mademoiselle Bérard, et son espion contre Beaulieu. Voici ce qui arriva. À 8h30, dans un moment où mademoiselle Bérard parlait à la vieille portière, Anne-Marie fit passer dans la cour Leven, qui 2 minutes après fut placé dans un retranchement en bois peint qui occupait la moitié de l'antichambre de madame de Chastelet. De là, Leven voyait fort bien ce qui se passait dans la pièce voisine, et entendait presque tout ce qui se disait dans l'appartement entier. Tout à coup, il entendit les vagissements d'un enfant à peine né. Il vit arriver dans l'antichambre le docteur essoufflé, portant l'enfant dans un linge qui lui parut taché de sang.
« Votre pauvre maîtresse, dit-il en toute hâte à Anne-Marie, est enfin sauvée. L'accouchement a eu lieu sans accident. Monsieur le marquis est-il hors de la maison ?
« Oui, monsieur.
Cette maudite Beaulieu n'y est pas. Elle est en route pour son village. »
Sous un prétexte, je l'ai envoyée chercher une nourrice, puisque celle que j'ai retenue au faubourg ne veut pas d'un enfant clandestin. »
Et monsieur de Blancé ?
Ce qu'il y a de bien singulier, c'est que votre maîtresse ne veut pas le voir. »
Je le crois, par Dieu bien, dit Anne-Marie, après un tel cadeau.
Après tout, peut-être l'enfant n'est pas de lui.
« Ma foi, ces grandes dames, ça ne va pas souvent à l'église, mais en revanche, cela a plus d'un amoureux. »
« Je crois entendre gémir madame de Chastelet. Je rentre, » dit le docteur. « Je vais vous envoyer mademoiselle Bérard. »
Mademoiselle Bérard arriva. Elle exécrait Leven, et dans une conversation d'un quart d'heure, eut l'art, en disant les mêmes choses que le docteur, d'être bien plus méchante. Mademoiselle Bérard était d'avis que ce gros poupon, comme elle l'appelait, appartenait à monsieur de Blancé ou au lieutenant-colonel de Hussard.
« Ou à monsieur de Goëlo, »
dit naturellement Anne-Marie.
« Non, pas à monsieur de Goëlo, » dit mademoiselle Bérard. « Madame ne peut plus le souffrir. C'était de lui la fausse couche qui faillit dans les temps la brouiller avec ce pauvre monsieur de Chastelet. » On peut juger de l'état où se trouvait Leven. Il fut sur le point de sortir de sa cachette et de s'enfuir, même en présence de mademoiselle Bérard. «
Non, se dit-il,
Elle s'est moquée de moi comme d'un vrai blanc-bec que je suis. Mais il serait indigne de la compromettre. »
À ce moment, le docteur, craignant de la part de Mademoiselle Bérard quelque raffinement de méchanceté trop peu vraisemblable, vint à la porte de l'antichambre.
« Mademoiselle Bérard ! Mademoiselle Bérard ! » dit-il d'un air alarmé. « Il y a une hémorragie ! Vite, vite, le seau de glace que j'ai apporté sous mon manteau !»
Dès qu'Anne-Marie fut seule, Leven sortit en remettant sa bourse à Anne-Marie, en quoi faisant, il vit, bien malgré lui, l'enfant qu'elle portait avec ostentation, et qui, au lieu de quelques minutes de vie, avait bien un mois ou deux. C'est ce que Leven ne remarqua pas. Il dit avec beaucoup de tranquillité apparente à Anne-Marie, « Je me sens un peu indisposée, je ne verrai Madame de Chastelet que demain. Voulez-vous venir parler à la portière pendant que je sortirai ?»
Anne-Marie le regardait avec des yeux extrêmement ouverts. « Est-ce qu'il est d'accord, lui aussi ?» pensait-elle.
Heureusement, pour le succès des projets du docteur, comme le geste de Leven la pressait fort, elle n'eut pas le temps de commettre une indiscrétion. Elle ne dit rien, alla déposer l'enfant sur un lit dans la chambre voisine, descendit chez la portière.
« Cette bourse si pesante, se disait-elle, est-elle remplie d'argent ou de jaunet ?»
Elle conduisit la portière au fond de sa loge, et Leven put sortir inaperçu. Il courut chez lui et s'enferma à clé dans sa chambre. Ce ne fut qu'à ce moment qu'il se permit de considérer en plein tout son malheur. Il était trop amoureux pour être furieux dans ce premier moment contre Madame de Chastelet.
« M'a-t-elle jamais dit qu'elle n'eût aimé personne avant moi ? D'ailleurs, vivant avec moi comme avec un frère, par ma sottise et ma très grande sottise, me devait-elle une telle confidence ? Mais, ma chère Bathilde, je ne puis donc plus t'aimer ! » s'écriait-il tout à coup en fondant en larmes. « Il serait digne d'un homme, pensa-t-il au bout d'une heure, d'aller chez Madame d'Aucuncourt, que j'abandonne sottement depuis un mois, et de chercher à prendre une revanche. » Il s'habilla en se faisant une violence mortelle, et comme il allait sortir, il tomba évanoui dans le salon. Il revint à lui quelques heures après. Un domestique le heurta du pied en allant voir à 3 heures du matin s'il était rentré.
« Ah, le voilà encore ivre-mort ! Quelle saleté pour un maître !» dit cet homme.
Leven entendit fort bien ces paroles. Il se crut d'abord dans l'état que disait ce domestique, mais tout à coup l'affreuse vérité lui apparut, et il fut bien plus malheureux que dans la soirée. Le reste de la nuit se passa dans une sorte de délire. Il eut un instant l'ignoble idée d'aller faire des reproches à Madame de Chastelet. Il eut horreur de cette tentation. Il écrivit au lieutenant-colonel Filoteau, qui par bonheur commandait le régiment, qu'il était malade et sorti de Nancy fort matin, espérant n'être pas vu. Ce fut dans cette promenade solitaire qu'il sentit en plein toute l'étendue de son malheur. « Je ne puis plus aimer Bathilde !» se disait-il tout haut de temps en temps. À 9 heures du matin, comme il se trouvait à 6 lieues de Nancy, l'idée d'y rentrer lui parut horrible. « Il faut que j'aille à Paris, à Franc-Étrier, voir ma mère. » Ses devoirs comme militaire avaient disparu à ses yeux. Il se sentait comme un homme qui approche des derniers moments. Toutes les choses du monde avaient perdu leur importance à ses yeux. Deux objets surnageaient seuls, sa mère et Madame de Chastelet. Pour cette âme épuisée par la douleur, l'idée folle de ce voyage fut comme une consolation, la seule qu'il entrevit. C'était une distraction. Il renvoya son cheval à Nancy et écrivit au colonel Filoteau pour le prier de ne pas faire parler de son absence. « Je suis mandé secrètement par le ministre de la guerre. » Ce mensonge se trouva sous sa plume parce qu'il eut la crainte folle d'être poursuivi. Il demanda un cheval à une poste. Comme, sur son air égaré, on lui faisait quelques objections,
il se dit envoyé par le colonel Philoteau du 27e de Lanciers à une compagnie du régiment qui était détachée à Reims pour faire la guerre aux ouvriers. Les difficultés qu'il eut pour obtenir le premier cheval ne se renouvelèrent plus, et 32 heures après, il était à Paris. Près d'entrer chez sa mère, il pensa qu'il lui ferait peur. Il alla descendre à un hôtel garni voisin, et ne revint chez lui que quelques heures plus tard. « Maman, je suis fou, je n'ai pas manqué à l'honneur, mais à cela près, je suis le plus malheureux des hommes. » « Je vous pardonne tout, » lui dit-elle en lui sautant au cou. « Ne crains aucun reproche, mon Lucien. Est-ce une affaire d'argent ? J'en ai. » « C'est bien autre chose. J'aimais et j'ai été trompée. »
Deuxième partie. Lecteur bénévole. En arrivant à Paris, il me faut faire de grands efforts pour ne pas tomber dans quelque personnalité. Ce n'est pas que je n'aime beaucoup la satire, mais en fixant l'œil du lecteur sur la figure grotesque de quelques ministres, le cœur de ce lecteur fait banqueroute à l'intérêt que je veux lui inspirer pour les personnages. Cette chose si amusante, la satire personnelle, ne convient donc point, par malheur, à la narration d'une histoire. Le lecteur est tout occupé à comparer mon portrait à l'original grotesque, ou même odieux, de lui bien connu. Il le voit, sale ou noir, comme le peindra l'histoire. Les personnalités sont charmantes quand elles sont vraies et point exagérées. Et c'est une tentation que ce que nous voyons depuis 20 ans est bien fait pour nous ôter. Quel du prix ! Dit Montesquieu, que de calomnier l'Inquisition. Il eût dit de nos jours, comment ajouter à l'amour de l'argent, à la crainte de perdre sa place et au désir de tout faire pour deviner la fantaisie du maître, qui font l'âme de tous les discours hypocrites de tout ce qui mange plus de 50 000 francs au budget. Je professe qu'au-dessus de 50 000 francs, la vie privée doit cesser d'être murée. Mais la satire de ces heureux du budget n'entre point dans mon plan. Le vinaigre est en soi une chose excellente, mais, mélangé avec une crème, il gâte tout. J'ai donc fait tout ce que j'ai pu pour que vous ne puissiez reconnaître, ô lecteur bénévole, un ministre de ces derniers temps qui voulut jouer de mauvais tours à Leven. Quel plaisir auriez-vous à voir en détail que ce ministre était voleur, mourant de peur de perdre sa place, et ne se permettant pas un mot qui ne fût une fausseté. Ces gens-là ne sont bons que pour leur héritier. Comme rien d'un peu spontané n'est jamais entré dans leur âme, la vue intérieure de cette âme vous donnerait du dégoût, ô lecteur bénévole. Et bien plus encore, si j'avais le malheur de vous faire deviner les traits doucereux ou ignobles qui recouvraient cette âme plate. C'est bien assez de voir ces gens-là quand on va les solliciter le matin. Non rationiam di loro, ma guarda e passa. Chapitre 38. Je ne veux point abuser de mon titre de père pour vous contrarier. Soyez libre, mon fils. Ainsi, établi dans un fauteuil admirable, devant un bon feu, parlait d'un air riant Monsieur Leven père, riche banquier déjà sur l'âge, à Lucien, son fils et notre héros. Le cabinet où avait lieu la conférence entre le père et le fils venait d'être arrangé avec le plus grand luxe sur les dessins de Monsieur Leven lui-même. Il avait placé dans ce nouvel ameublement les 3 ou 4 bonnes gravures qui avaient paru dans l'année en France et en Italie, et un admirable tableau de l'école romaine dont il venait de faire l'acquisition. La cheminée de marbre blanc contre laquelle s'appuyait Leven avait été sculptée à Rome dans l'atelier de Tenerani, et la glace de 8 pieds de haut sur 6 de large, placée au-dessus,
avait figuré dans l'exposition de 1834 comme absolument sans défaut. Il y avait loin de là, au misérable salon dans lequel, à Nancy, Lucien promenait ses inquiétudes. En dépit de sa douleur profonde, la partie parisienne et vaniteuse de son âme était sensible à cette différence. Il n'était plus dans des pays barbares, il se trouvait de nouveau au sein de sa patrie. « Mon ami, dit Monsieur Leven père, le thermomètre monte trop haut. Faites-moi le plaisir de pousser le bouton de ce ventilateur numéro 2, là, derrière la cheminée. Fort bien. Donc, je ne prétends nullement abuser de mon titre pour abréger votre liberté. Faites absolument ce qui vous conviendra. » Leven, debout contre la cheminée, avait l'air sombre, agité, tragique. L'air, en un mot, que nous devrions trouver à un jeune premier de tragédie malheureux par l'amour. Il cherchait avec un effort pénible et visible à quitter l'air farouche du malheur pour prendre l'apparence du respect et de l'amour filial le plus sincère, sentiment très vivant dans son cœur. Mais l'horreur de sa situation depuis la dernière soirée passée à Nancy avait remplacé sa physionomie de bonne compagnie par celle d'un jeune brigand qui paraît devant ses juges. « Votre mère prétend, continua M. Leven père, que vous ne voulez pas retourner à Nancy. Ne retournez pas en province. À Dieu ne plaise que je m'érige en tyran. Pourquoi ne feriez-vous pas des folies et même des sottises? Il y en a une pourtant, mais une seule à laquelle je ne consentirai pas, parce qu'elle a des suites. C'est le mariage. Mais vous avez la ressource des sommations respectueuses, et pour cela, je ne me brouillerai pas avec vous. Nous plaiderons, mon ami, en dînant ensemble. » Mais mon père, répondit Lucien revenant de bien loin, il n'est nullement question de mariage. Eh bien, si vous ne songez pas au mariage, moi j'y songerai. Réfléchissez à ceci. Je puis vous marier à une fille riche et pas plus sotte qu'une pauvre, et il est fort possible qu'après moi vous ne soyez pas riche. Ce peuple-ci est si faux qu'avec une épaulette, une fortune bornée est très supportable pour l'amour-propre. Sous l'uniforme, la pauvreté n'est que la pauvreté. Ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas le mépris. Mais tu croiras ces choses-là, dit M. Leven en changeant de ton, quand tu les auras vues toi-même. Je dois te sembler un radoteur. Donc, brave sous-lieutenant, vous ne voulez plus de l'état militaire. Puisque vous êtes si bon que de raisonner avec moi au lieu de commander, non, je ne veux plus de l'état militaire en temps de paix, c'est-à-dire passer ma soirée à jouer au billard et à m'enivrer au café. Et encore, avec défense de prendre sur la table de marbre mal essuyée d'autres journaux que le journal de Paris. Dès que nous sommes trois officiers à nous promener ensemble, un au moins peut passer pour espion dans l'esprit des deux autres. Le colonel, autrefois un trépide soldat, s'est transformé, sous la baguette du juste milieu, en sale commissaire de police. Monsieur Leven père sourit comme malgré lui. Lucien le comprit, et ajouta avec empressement « Je ne prétends point tromper un homme aussi clairvoyant. Je ne l'ai jamais prétendu. Croyez-le bien, mon père. Mais enfin, il fallait bien commencer mon compte par un bout. Ce n'est donc point pour des motifs raisonnables que, si vous le permettez, je quitterai l'état militaire. Mais cependant, c'est une démarche raisonnable. Je sais donner un coup de lance et commander à 50 hommes qui donnent des coups de lance. Je sais vivre convenablement avec 35 camarades, dont 5 ou 6 font des rapports de police. Je sais donc le métier. Si la guerre survient, mais une vraie guerre, dans laquelle le général en chef ne trahisse pas son armée, et que je pense comme aujourd'hui, je vous demanderai la permission de faire une campagne ou deux. La guerre, suivant moi, ne peut pas durer davantage si le général en chef ressemble un peu à Washington.
Si ce n'est qu'un pillard habile et brave comme Soult, je me retirerai une seconde fois. »
« Ah, c'est là votre politique !» reprit son père avec ironie.
« Diable, c'est de la haute vertu !»«
Mais la politique, c'est bien long.
Que voulez-vous pour vous, personnellement ?»«
Vivre à Paris, ou faire de grands voyages, l'Amérique, la Chine. »
« Vu mon âge et celui de votre mère, tenons-nous-en à Paris. Si j'étais l'enchanteur Merlin et que vous n'eussiez qu'un mot à dire pour arranger le matériel de votre destinée, que demanderiez-vous? Voudriez-vous être commis dans mon comptoir ou employé dans le bureau particulier d'un ministre qui va se trouver en possession d'une grande influence sur les destinées de la France? Monsieur de Vèze, en un mot, il peut être ministre de l'Intérieur demain. »
« Monsieur de Vèze, ce pair de France qui a tant de génie pour l'administration, ce grand travailleur ?»«
Précisément !» répondit Monsieur Leven en riant et admirant la haute vertu des intentions et la bêtise des perceptions.
« Je n'aime pas assez l'argent pour entrer au comptoir, » répondit Lucien. « Je ne pense pas assez au métal. Je n'ai jamais senti vivement et longtemps son absence. » Cette absence terrible ne sera pas toujours là, en moi, pour répondre victorieusement à tous les dégoûts. Je craindrais de manquer de persévérance une seconde fois si je nommais le comptoir.
Mais si après moi vous êtes pauvre?
Du moins, la dépense que j'ai faite à Nancy, maintenant je suis riche, et pourquoi cela ne durerait-il pas bien longtemps encore?
Parce que 65 n'est pas égal à 24.
Mais cette différence... La voix de Lucien se voilait.
Pas de phrase, monsieur. Je vous rappelle à l'ordre. La politique et le sentiment nous écartent également de l'objet à l'ordre du jour. Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? C'est de vous qu'il s'agit. Et c'est à quoi nous cherchons une réponse. Le comptoir vous ennuie? Et vous aimez mieux le bureau particulier du comte de Vèze?
Oui, mon père.
Maintenant paraît une grande difficulté. Serez-vous assez coquin pour cet emploi?
Lucien tressaillit. Son père le regarda avec le même air gai et sérieux tout à la fois. Après un silence, Monsieur Leven père reprit.
Oui, monsieur le sous-lieutenant, serez-vous assez coquin? Vous serez à même de voir une foule de petites manœuvres. Voulez-vous, vous subalterne, aider le ministre dans ces choses ou le contrecarrer? Voudrez-vous faire aigre comme un jeune républicain qui prétend repétrir les Français pour en faire des anges? That is the question. Et c'est là-dessus que vous me répondrez ce soir, après l'opéra, car ceci est un secret. Pourquoi n'y aurait-il pas crise ministérielle en ce moment? La finance et la guerre ne sont-elles pas dit les gros mots pour la 20e fois? Je suis fourré là-dedans. Je puis ce soir, je puis demain, et peut-être je ne pourrai plus après-demain vous nicher d'une façon brillante. Je ne vous dissimule pas que les mères jetteront les yeux sur vous pour vous faire épouser leur fille. En un mot, la position la plus honorable, comme disent les sots. Mais serez-vous assez coquin pour la remplir? Réfléchissez donc à ceci. Jusqu'à quel point vous sentez-vous la force d'être un coquin? C'est-à-dire d'aider à faire une petite coquinerie? Car depuis 4 ans, il n'est plus question de verser du sang. Tout au plus de voler l'argent, interrompit Lucien.
Du pauvre peuple, interrompit à son tour Monsieur Leven, père, d'un air piteux. Ou de l'employer un peu différemment qu'il ne l'emploierait lui-même, ajouta-t-il du même ton. Mais il est un peu bête, et ses députés un peu sots et pas mal intéressés.
Et que désirez-vous que je sois?
Demanda Lucien d'un air simple.
Un coquin, reprit le père. Je veux dire un homme politique, un Martignac. Je n'irai pas jusqu'à dire un Talleyrand. À votre âge et dans vos journaux, on appelle cela être un coquin.
Dans 10 ans, vous saurez que Colbert, que Sully, que le cardinal de Richelieu, en un mot, tout ce qui a été homme politique, c'est-à-dire dirigeant les hommes, s'est élevé au moins à ce premier degré de coquinerie que je désire vous voir. N'allez pas faire comme N, qui, nommé secrétaire général de la police, au bout de 15 jours donna sa démission parce que cela était trop sale. Il est vrai que dans ce temps, on faisait fusiller, frotter par des gendarmes chargés de le conduire de sa maison en prison, et qu'avant de partir, les gendarmes savaient qu'il essaierait de s'échapper en route, ce qui les réduirait à la triste nécessité de le tuer à coups de fusil.
« Diable !» dit Lucien.
« Oui, le préfet C, ce brave homme préfet à Troyes, est mon ami, dont vous vous souvenez peut-être, un homme de 5 pieds 6 pouces, à cheveux gris, à Plancy.
Oui, je m'en souviens très bien. Ma mère lui donnait la belle chambre à damas rouge à l'angle du château.
C'est cela. Eh bien, il perdit sa préfecture dans le nord, à Caen ou environ, enfin, parce qu'il ne voulait pas être assez coquin, et je l'approuvais fort. Un autre fit l'affaire frotter.
Ah, diable, mon jeune ami, comme disent les pères nobles, vous êtes étonné.
On le serait à moins, répond souvent le jeune premier, dit Leven. Je croyais que les jésuites seuls et la restauration...
Ne croyez rien, mon ami, que ce que vous avez vu, et vous en serez plus sage.
Maintenant, à cause de cette maudite liberté de la presse, dit Monsieur Leven en riant, il n'y a plus moyen de traiter les gens à la frotter. Les ombres les plus noires du tableau actuel ne sont plus fournies que par des pertes d'argent ou de place.
Ou par quelques mois de prison préventive.
Très bien. À ce soir, réponse décisive, claire, nette, sans phrase sentimentale surtout. Demain, peut-être, je ne pourrai plus rien pour mon fils. Ces mots furent dits d'une façon à la fois noble et sentimentale, comme eût fait Monvel, le grand acteur.
À propos, dit M. Leven, père, en revenant,
vous savez sans doute que sans votre père, vous seriez à l'abbaye. J'ai écrit au général D. J'ai dit que je vous avais envoyé un courrier parce que votre mère était fort malade. Je vais passer à la guerre pour que votre congé antidaté arrive au colonel. Écrivez-lui de votre côté et tâchez de le séduire.
Je voulais vous parler de l'abbaye. Je pensais à 2 jours de prison et à remédier à tout par ma démission.
Pas de démission, mon ami. Il n'y a que les sots qui donnent leur démission. Je prétends bien que vous serez toute votre vie un jeune militaire de la plus haute distinction, attiré par la politique. Une véritable perte pour l'armée, comme disent les débats.
Chapitre 39. La distraction violente causée par la réponse catégorique, décisive, demandée par son père, fut une première consolation pour Leven. Pendant le voyage de Nancy à Paris, il n'avait pas réfléchi. Il fuyait la douleur. Le mouvement physique lui tenait lieu de mouvement moral. Depuis son arrivée, il était dégoûté de soi-même et de la vie. Parler avec quelqu'un était un supplice pour lui. À peine pouvait-il prendre assez sur soi pour parler 1 heure de suite avec sa mère. Dès qu'il était seul, ou il était plongé dans une sombre rêverie, dans un océan sans limite de sentiments déchirants, ou, raisonnant un peu, il se disait « Je suis un grand sot, je suis un grand fou, j'ai estimé ce qui n'est pas estimable, le cœur d'une femme, et le désirant avec passion, je n'ai pas pu l'obtenir. Il faut ou quitter la vie, ou me corriger profondément. » Dans d'autres moments où un attendrissement ridicule prenait le dessus,
« Peut-être l'eussais-je obtenu, » se disait-il, sans la cruauté de l'aveu à faire. « Un autre m'a aimé et je suis... »
Car il y a 10 jours où elle m'aimait vraiment. Sans le cruel état où elle se trouvait, elle m'eût dit
« Eh bien oui, je vous aime. »
Mais alors il fallait ajouter « L'état où je me trouve... » car elle a de l'honneur, j'en suis sûre. Elle m'a mal connue. Cet aveu n'eût pas détruit l'étrange sentiment que j'ai pour elle. Toujours j'en ai eu honte, et toujours il m'a dominée. Elle a été faible, et moi, suis-je parfait? Mais pourquoi m'abuser? Disait-il en s'interrompant avec un sourire amer. Pourquoi parler le langage de la raison? Quand j'aurai trouvé en elle des défauts choquants, que dis-je, des vices déshonorants, j'aurais été cruellement combattue, mais je n'aurais pu cesser de l'aimer. Désormais, qu'est-ce que la vie pour moi? Un long supplice. Où trouver le plaisir? Où trouver seulement un état exempt de peine? Cette sensation triste finissait par amortir toutes les autres. Il parcourait tous les états de la vie, les voyages comme le séjour à Paris, la richesse extrême, le pouvoir, partout il trouvait un dégoût invincible. L'homme qui venait lui parler lui semblait toujours le plus ennuyé de tous. Une seule chose le tirait de l'inaction profonde et faisait agir son esprit. C'était de revenir sur les événements de Nancy. Il frémissait en rencontrant sur une carte géographique le nom de cette petite ville. Ce nom le poursuivait dans les journaux. Tous les régiments qui revenaient de Lunéville semblaient devoir passer par là. Le nom de Nancy ramenait toujours, invariablement, cette idée. Elle n'a pu se résoudre à me dire « J'ai un grand secret que je ne puis vous confier, mais à cela près, je vous aime uniquement. » Souvent, en effet, je la voyais profondément triste. Cet état me semblait extraordinaire, inexplicable. Si j'allais à Nancy me jeter à ses pieds et lui demander pardon de ce qu'elle m'a fait cocu, ajoutait le parti Méphistophélès en ricanant. Après avoir quitté le cabinet de son père, cet ordre de pensée semblait s'être attaché au cœur de Lucien avec plus d'acharnement que jamais. « Et il faut qu'avant demain matin, se disait-il avec terreur, je prenne une décision, que j'ai foi en moi-même. Est-il un être au monde dont j'estime aussi peu le jugement ?» Il était extrêmement malheureux. Le fond de tous ses raisonnements était cette folie. À quoi bon choisir un état pour la troisième fois? Puisque je n'ai pas su plaire à Madame de Chastelet, que saurais-je jamais? Quand on possède une âme comme la mienne, à la fois faible et impossible à contenter, on va se jeter à la trappe. Le plaisant, c'est que toutes les amies de Madame Leven lui faisaient compliment sur l'excellente tenue que son fils avait acquise. « C'est maintenant l'homme sage, disait-on de toutes parts, l'homme fait pour satisfaire l'ambition d'une mère. » Dans son dégoût pour les hommes, Lucien n'avait garde de leur laisser deviner ses pensées. Il ne leur répondait que par des lieux communs bien maniés. Tourmenté par la nécessité de donner le soir même une réponse décisive, il alla dîner seul, car il fallait parler et être aimable à la maison, ou bien il pleuvait des épigrammes, et l'usage était de n'épargner personne. Après dîner, Lucien erra sur le boulevard et ensuite dans les rues. Il craignait de rencontrer des amis sur le boulevard, et chaque minute était précieuse et pouvait lui donner l'idée d'une réponse. En passant la rue de, il entra machinalement dans un cabinet de lecture mal éclairé et où il espérait trouver peu de monde. Un domestique rendait un livre à la demoiselle du comptoir. Il lui trouva une mise d'une fraîcheur charmante et de la grâce. Lucien rentrait de province. Il ouvrit le livre au hasard. C'était un ennuyeux moraliste qui avait divisé sa drogue par portraits détachés, comme Vauvenargues, Edgar ou le Parisien de 20 ans. Qu'est-ce qu'un jeune homme qui ne connaît pas les hommes, qui n'a vécu qu'avec des gens polis ou des subordonnés ou des gens dont il ne choquait pas les intérêts? Edgar n'a pas pour garant de son mérite que les magnifiques promesses qu'il se fait à soi-même. Edgar a reçu l'éducation la plus distinguée. Il monte à cheval, il mène admirablement son cabriolet, il a, si vous l'exigez, toute l'instruction de la grange, toutes les vertus de Lafayette. Qu'importe. Il n'a point éprouvé l'effet des autres sur lui-même. Il n'est sûr de rien, ni sur les autres, ni, à plus forte raison, sur soi-même. Ce n'est tout au plus qu'un brillant, peut-être. Que sait-il, au fond ? Monter à cheval, parce que son cheval n'est pas poli et le jette par terre s'il fait un faux mouvement. Plus sa société est polie, moins elle ressemble à son cheval, moins il vaut. Laisse-t-il s'enfuir ses rapides années de 18 à 30 ans sans se colleter avec la nécessité, comme dit Montaigne ? Il n'est plus même un, peut-être. L'opinion le dépose dans l'ornière des gens communs, elle cesse de le regarder. Elle ne voit plus en lui qu'un être comme tout le monde, important seulement par le nombre de billets de 1 000 francs que ses fermiers placent sur son bureau. Moi, philosophe, je néglige le bureau chargé de billets. Je regarde l'homme qui les compte. Je ne vois en lui qu'un être jaune, ennuyé, réduit quelquefois par son ineptie à se faire l'exagéré d'un parti, l'exagéré des Bouffes et de Rossini, l'exagéré du juste milieu se réjouissant du nombre des morts sur les quais de Lyon, l'exagéré de Henri V répétant que Nicolas va lui prêter 200 000 hommes et 400 millions. Que m'importe ? Qu'importe au monde ? Edgar s'est laissé tomber à n'être qu'un sot. S'il va à la messe, s'il proscrit autour de lui toute conversation pâle, toute plaisanterie sur quoi que ce soit, s'il fait des aumônes, bien entendu, vers 50 ans, les charlatans de toutes les sortes, ceux de l'Institut comme ceux de l'archevêché, proclameront qu'il a toutes les vertus. Par la suite, ils le porteront peut-être à être l'un des 12 maires de Paris. Il finira par fonder un hôpital. Requiescat in pace. Colla vivait, Colla est mort. Lucien relisait chaque phrase de cette morale 2 et même 3 fois. Il en examinait le sens et la portée. Sa rêverie sombre fit lever le nez au lecteur du journal du soir. Il s'en aperçut, paya avec humeur, sortit. Il se promenait sur la place Beauvau, devant le cabinet littéraire. « Je serai un coquin !» s'écria-t-il tout à coup. Il passa encore un quart d'heure à bien tâter son courage, puis appela un cabriolet et courut à l'opéra. « Je vous cherchais, » lui dit son père, qu'il trouva errant dans le foyer. Ils montèrent rapidement dans la loge de M. Leven père. Ils y trouvèrent 3 demoiselles et Raymonde en costume de sylphide. « They cannot understand. Elles ne comprendront pas un mot à ce que nous dirons, ainsi ne nous gênons pas. « Messieurs, nous lisons dans vos yeux, » dit Mademoiselle Raymonde. Des choses beaucoup trop sérieuses pour nous. Nous allons sur le théâtre. Soyez heureux si vous le pouvez, sans nous. Eh bien, vous sentez-vous l'âme assez scélérate pour entrer dans la carrière des honneurs ? Je serai sincère avec vous, mon père. L'excès de votre indulgence m'étonne et augmente ma reconnaissance et mon respect. Par l'effet de malheur sur lesquels je ne puis m'expliquer, même avec mon père, je me trouve dégoûté de moi-même et de la vie. Comment choisir telle ou telle carrière ? Tout m'est également indifférent, et je puis dire « Oh Dieu !» Le seul état qui me conviendrait serait d'abord celui d'un mourant à l'Hôtel Dieu. Ensuite, peut-être, celui d'un sauvage qui est obligé de chasser ou de pêcher pour sa subsistance de chaque jour. Cela n'est ni beau ni honorable pour un homme de 24 ans. Aussi, personne au monde n'aura jamais cette confidence. Quoi ? Pas même votre mère ? Ces consolations augmenteraient mon martyre. Elle souffrirait trop de me voir dans ce malheureux état. L'égoïsme de M. Leven eut une jouissance qui l'attacha un peu à son fils. Et là, se dit-il, des secrets pour sa mère qui n'en sont pas pour moi. Si je reviens à la sensibilité pour les choses extérieures, il se peut que je me trouve étrangement choqué des exigences de l'état que j'aurais choisi. Une place dans votre comptoir, pouvant se quitter sans scandaliser personne,
Je devrais peut-être le choisir.
Je dois vous mettre en possession d'une donnée importante. Vous serez plus utile à mes intérêts comme secrétaire du ministre de l'Intérieur que comme chef de correspondance dans mon bureau. Vos qualités comme homme du monde me seraient inutiles dans mon bureau. »
Lucien fut adroit pour la première fois depuis son cocuage. C'était le mot qu'il employait avec une amère ironie, car pour torturer davantage son âme, il se regardait comme un mari trompé et s'appliquait la masse de ridicule et d'antipathie dont le théâtre et le monde vulgaire affublent cet état. Comme s'il y avait encore des caractères d'état. Lucien allait conclure pour la place au ministère, principalement par curiosité. Il connaissait le comptoir et n'avait pas la moindre idée de l'intérieur intime d'un ministre. Il se faisait une fête d'approcher M. le comte de Vaise, travailleur infatigable et le premier administrateur de France, disaient les journaux. Un homme qu'on comparait au comte Daru de l'empereur. À peine son père eut-il cessé de parler. « Ce mot me décide !» s'écria-t-il avec une fausseté naïve qui pouvait donner de l'espoir pour l'avenir. « Je penchais pour le comptoir, mais je m'engage au ministère, sous la condition que je ne contribuerai à aucun assassinat, comme le maréchal Ney, le colonel Caron, Frotté, etc. Je m'engage tout au plus pour des friponneries d'argent. Et enfin, un peu sûr de moi-même, je ne m'engage que pour un an. »
C'est bien peu pour le monde. On dira, il ne peut pas tenir en place plus de 6 mois.
Peut-être aurez-vous du dégoût dans les commencements et de l'indulgence pour les faiblesses et les friponneries des hommes 6 mois plus tard. Pouvez-vous, par amitié pour moi, me sacrifier 6 mois de plus et me promettre de ne pas quitter les bureaux de la rue de Grenelle avant 18 mois?
Je vous donne ma parole pour 18 mois. Toujours à moins d'assassinats. Par exemple, si mon ministre engageait 4 ou 5 officiers à se battre en duel successivement contre un député trop éloquent, incommode pour le budget.
« Ah, mon ami !» dit M. Levenne en riant de tout son cœur. « Mais d'où sortez-vous ? Allez, il n'y aura jamais de ces duels-là, et pour cause !»«
Ce serait là, » continua son fils fort sérieusement. Un cas rédhibitoire. Je partirais à l'instant pour l'Angleterre.
Mais qui sera juge des crimes, homme vertueux?
Vous, mon père.
Les friponneries, les mensonges, les manœuvres d'élection ne romperont pas notre marché?
Je ne ferai pas les pamphlets menteurs.
Fi donc, cela regarde les gens de lettres. Dans le genre sale, vous dirigez, vous ne faites jamais. Voici le principe. Tout gouvernement, même celui des États-Unis, ment toujours et en tout. Quand il ne peut pas mentir au fond, il ment sur les détails. Ensuite, il y a les bons mensonges et les mauvais. Les bons sont ceux que croit le petit public de 50 louis de rente à 12 ou 15 000 francs. Les excellents attrapent quelques gens à voiture, les exécrables sont ceux que personne ne croit et qui ne sont répétés que par les ministériels éhontés. Ceci est entendu. Voici une première maxime d'État. Cela ne doit jamais sortir de votre mémoire ni de votre bouche. J'entre dans une caverne de voleurs, mais tous leurs secrets, petits et grands, sont confiés à mon honneur.
Doctement, le gouvernement escamote les droits et l'argent des populations tout en jurant tous les matins de les respecter. Vous souvenez-vous du fil rouge que l'on trouve au centre de tous les cordages, gros ou petits, appartenant à la marine royale d'Angleterre? Ou plutôt, vous souvenez-vous de Werther, je crois, où j'ai lu cette belle chose?
Très bien. Voilà l'image d'une corporation ou d'un homme qui a un mensonge de fond à soutenir. Jamais de vérité pure et simple. Voyez les doctrinaires.
Le mensonge de Napoléon n'était pas aussi grossier, à beaucoup près.
Il n'y a que deux choses sur lesquelles on n'est pas encore trouvé le moyen d'être hypocrite. Amuser quelqu'un dans la conversation et gagner une bataille. Du reste, ne parlons pas de Napoléon. Laissez le sens moral à la porte en entrant au ministère. Comme de son temps, on laissait l'amour de la patrie en entrant dans sa garde. Voulez-vous être un joueur d'échecs pendant 18 mois et n'être rebuté par aucune affaire d'argent? Le sang seul vous arrêterait? Oui, mon père. Eh bien, n'en parlons plus. Et M. Leven père s'enfuit de sa loge. Lucien remarqua qu'il marchait comme un homme de 20 ans. C'est que cette conversation avec un niais l'avait mortellement excédé. Lucien, étonné d'avoir pris intérêt à la politique, regardait la salle de l'opéra. Me voici au milieu de ce qu'il y a de plus élégant à Paris. Je vois ici à profusion tout ce qui me manquait à Nancy. À ce nom chéri, il tira sa montre. Il est 11 heures. Dans nos jours de confiance intime ou de grande gaieté, je prolongeais jusqu'à 11 heures ma visite du soir. Une idée bien lâche, qu'il avait déjà repoussée plusieurs fois, se présenta avec une vivacité à laquelle il ne put résister. Si je campais là le ministère et retournais à Nancy et au régiment, si je lui demandais pardon du secret qu'elle m'a fait, ou plutôt si je ne lui parlais pas de ce que j'ai vu, ce qui est plus juste, pourquoi ne me recevrait-elle pas comme la veille de ce jour fatal? En quoi puis-je être offensé raisonnablement, moi qui ne suis point son amant, de rencontrer la preuve qu'elle a eu un amant avant de me connaître? Mais ma façon d'être avec elle serait-elle la même? Tôt ou tard, elle saurait la vérité. Je ne pourrais m'empêcher de la lui dire si elle me la demandait. Et là, comme il m'est déjà arrivé plusieurs fois, l'absence de vanité me ferait mépriser comme un homme sans cœur. Serais-je tranquille avec le sentiment que si l'on me connaissait, l'on me mépriserait, et surtout moi, ne pouvant pas lui en faire confidence? Cette grande question agitait le cœur de Leven, tandis que ses yeux s'arrêtaient, avec une sorte d'attention machinale, sur chacune des femmes qui remplissaient les loges à la mode. Il en reconnut plusieurs. Elles lui semblèrent des comédiennes de campagne. « Mais grand Dieu, je deviens fou à la lettre !» se dit-il quand sa lorgnette fut arrivée au bout du rang des loges. « J'appliquais absolument le même mot de comédienne de campagne aux femmes qui remplissaient le salon de mesdames de Puylaurent et d'Aucuincourt. Un homme opprimé par une fièvre dangereuse peut trouver amère la saveur de l'eau sucrée. L'essentiel est que personne ne s'aperçoive de ma folie. Je ne dois dire absolument que des choses communes, et jamais rien qui s'écarte le moins du monde de l'opinion reçue dans la société où je me trouverai. Le matin, une grande assiduité dans mon bureau, si j'ai un bureau, ou de longues promenades à cheval. Le soir, afficher une passion pour le spectacle, fort naturel après 8 mois d'exil en province. Dans les salons, quand je ne pourrais absolument éviter d'y paraître, un goût démesuré pour l'écarter. Les réflexions de Lucien furent interrompues par une obscurité soudaine. C'est qu'on éteignait les lampes ou becs de gaz de toutes parts. « Bon, se dit-il avec un sourire amer, le spectacle m'intéresse tellement que je suis le dernier à le quitter. » Dans le fait, il était moins malheureux. 10 fois par jour, la pensée de Nancy était remplacée par celle-ci. À quel genre de besogne est-ce qu'ils vont me mettre? Il lisait tous les journaux avec un intérêt bien nouveau pour lui. Le seul indice politique qu'il eut fut celui-ci. Sa mère lui dit « Tu écris bien mal, tu ne formes pas tes lettres. » Il n'est que trop vrai. « Eh bien, si tu vas rue de Grenelle, écris encore plus mal. » Que jamais ton écriture ne puisse passer sous les yeux du roi sans être recopiée. Cela te sauvera de l'ennui de transcrire des pièces secrètes. Et ce qui vaut mieux, ton écriture ne restera pas attachée à des choses qui peuvent être un souvenir pénible dans 10 ans. Grâce à Dieu, mon cher Lucien, tu as 38 ans de moins que le roi. Vois les changements qui ont eu lieu en France depuis 38 ans.
Pourquoi l'avenir ne ressemblerait-il pas au passé ? La révolution est faite dans les choses, dit toujours ton père pour me tranquilliser. Mais une ambition effrénée n'est-elle pas descendue dans les rangs les plus intimes ? Un garçon cordonnier veut devenir un Napoléon. Une conversation politique ne finit jamais. Celle-ci se prolongea à l'infini entre une mère femme d'esprit et un fils inquiet de ce qu'on allait faire de lui. Pour la première fois, le fantôme importun de Nancy ne vint pas emporter l'attention de Leven. 8 jours après l'entretien à l'opéra, le moniteur portait l'acceptation de la démission de M. N., ministre de l'Intérieur, la nomination à cette place de M. le comte de Vèze, pair de France, des ordonnances analogues pour 4 autres ministères et beaucoup plus bas, dans un coin obscur, par ordonnance du messieurs N. et Lucien Leven ont été nommés maîtres des requêtes. Monsieur L. Leven est chargé du bureau particulier de Monsieur le comte de Vèze, ministre de l'Intérieur.